Bon bah voilà, on est en direct je pense, hein. On est repris là par Radio Panique, vous écoutez Radio Maritime, alors qu'il y a Allah qui rentre dans le studio, installe-toi, vous l'avez peut-être vu sur le programme d'aujourd'hui, qu'on vient seulement de mettre en ligne, aujourd'hui on va parler du masque, ouais, parce que dans le quartier on parle beaucoup de ça, on parle de ces petits-enfants de 6 ans maintenant qui doivent mettre leur masque. Ouais. Et alors, il y a des parents qui ne sont pas d'accord. Il y a des parents qui sont même en colère. On va parler de ça dans l'émission aujourd'hui. Vous écoutez Radio Maritime, on est ensemble jusqu'à midi.
Radio Maritime, c'est le jeudi de 11h à midi sur Radio Panique. 105.4.
Comment tu t'appelles ?
Miles.
T'as quel âge ?
6 ans.
Qu'est-ce qui a changé ces derniers jours à l'école ?
Le masque, c'est pire. C'est pire que l'école. Et voilà.
Quoi, tu dois mettre le masque, c'est ça ?
Ouais, mais pas dehors. Dans la salle de gym, oui.
Non, chez moi, non.
Chez moi, oui.
Toi, comment tu t'appelles ?
Anna.
Et toi aussi, t'as 6 ans ?
Oui. Et là, je mange mon déjeuner.
Et comment ça se passe à l'école ?
Pas bien.
Pourquoi ça se passe pas bien ?
À cause du masque, mais ma prof a dit que je dois pas porter le masque.
Toi, tu dois porter le masque quand, Miles ?
À peu près toute la journée, et à part quand on est dehors.
Et donc, quand t'arrives le matin, en classe, tu le mets ?
Pire, ouais. Mais quand c'est par les bancs dans ma classe, on doit pas les mettre.
Ah, donc vous pouvez séparer les bancs ?
Oui, pour enlever notre masque. Mais il y en a une table, il y a deux tables qui sont jamais séparées. La moyenne et la plus grande.
Et du coup, qu'est-ce que ça fait chez toi ? Ça t'ennuie ? Ça te fait peur ? Ça te stresse ? Comment tu le vis ?
C'est méchant, voilà, c'est méchant.
Ça me fait pas peur, quoi ?
Je sais pas lire avec mon casque, je sais pas lire avec mon masque. Donc, mais ce qui est chouette, c'est que Saint-Nicolas, il est passé dans ma classe. Et comme ça, je peux mettre des knick-knacks dans mon masque pour manger.
Pourquoi tu crois qu'on porte le masque ? Pourquoi on porte le masque ?
Parce qu'il y a le corona, il y a un nouveau qui est plus fort.
On doit porter le masque même dans la classe puisque on s'inquiète que le corona est encore plus fort que les autres. Voilà, puisque c'est un nouveau.
Et du coup, toi, ton professeur, ça fait combien de temps qu'il le porte ?
Depuis qu'il y a le nouveau... depuis qu'il y a le corona. Depuis que le corona est arrivé. Et aussi...
Toi, t'es en première année, t'as toujours connu ton prof avec un masque.
Ouais, en vrai. Et en vrai, y a beaucoup de gens qui sont punis parce qu'ils touchent toujours à leur masque.
Ah oui, il est fâché parfois quand tu touches ou que tu l'enlèves.
Oui. À part quand on travaille, là, on peut l'enlever. S'il y a des gens qui vont chercher des couleurs et tout ça, alors on doit garder notre masque. Et quand tout le monde est bien assis et qu'il travaille à ses petites activités, alors là, on peut l'enlever.
Toi, t'oublies de l'enlever ? T'oublies de le mettre ?
Non, pas forcément. Ce qui est chouette, je bois beaucoup de verres d'eau comme ça. Au moins, je dois pas porter mon masque pour le boire. Et aussi, je reçois des biscuits, alors je le mange sans masque.
Radio Maritime, c'est le jeudi, de 11h à midi.
Et dans Radio Maritime, aujourd'hui, il y a Erika. Bonjour Erika.
Bonjour.
C'est la première fois que tu viens dans Radio Maritime et pourtant tu es du quartier.
Oui, j'habite juste à côté.
Juste à côté du centre communautaire maritime d'où nous sommes en direct aujourd'hui. Il y a Mathilde.
Bonjour.
Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Toi, tu es déjà venue dans Radio Maritime une fois, je crois. C'est possible.
Il y a longtemps, alors.
Oui, il y a très longtemps.
À des ateliers, en tout cas, oui. Ouais. Je connais cet endroit.
Alain, salut.
Salut.
Welcome back.
Merci beaucoup.
Et puis Choukran, qui est une habituée. Ça va, Choukran?
Ça va bien, merci.
Voilà, petit comité aujourd'hui. Alors, il y a Eduardo qui va nous rejoindre aussi. Donc, vous l'avez compris, c'est le masque, le port du masque à l'école. Qui, attention, Erika, les tabourets ne sont pas super stables. C'est.
Pardon.
Pas de souci. C'est donc le masque en question aujourd'hui. Erika, toi, t'es pas contente?
Autant que parents et aussi des jeunes filles. Donc, j'ai trois filles.
Trois filles,
deux vont dans les maternelles.
Donc, pas de masque.
Pour le moment.
Ouais.
Et une va en première primaire, donc elle a juste 6 ans et demi comme ça. Et donc, en plus, comme artiste danseuse, je donne aussi des ateliers dans des écoles pour les enfants des primaires. Je donnais aussi des secondaires l'année passée, ils avaient tous les masques. Et je constate que vraiment, c'est un grand, je ne suis pas contente parce que ça n'aide pas le développement, pour moi, psychique, on dit psychique de l'enfant. Et aussi dans la motricité, j'ai remarqué ça. Parce que pour la motricité aussi, ça les bloque un peu. J'ai constaté ça avec les adolescents qui déjà ont des problèmes, pas des problèmes, mais ont des, ils se freinent dans les mouvements pour des questions, je suis jugée, non, l'autre me regarde. Plus ils sont les masques, donc ils s'enferment encore plus dans leur bulle, plus l'année passée, on pouvait non plus se toucher. George, se toucher, je veux dire pousser une épaule de l'autre, un bras de l'autre, se rapprocher, se regarder dans les yeux, s'éloigner. On devait faire tout un atelier de danse individuel, chacun dans son lieu, pas se rapprocher aux autres. Donc, c'était pas le but de mon atelier, de la rencontre, prendre confiance en soi, en les autres. Et donc, ça, c'était d'abord comme artiste. En plus, maintenant, ce masque est arrivé aussi aux petits, et pas autant que parents, mais aussi comme personne qui travaille dans les écoles. Je vois que c'est un grand limite. Et ça va contre la pédagogie, contre ce que les enfants doivent développer à l'école. Ils ne voient pas les sourires de l'autre, ils ne voient pas les expressions. Pour apprendre, déjà, c'est un problème parce qu'ils ne voient pas l'expression de l'instit. Et j'ai parlé avec l'instit, elle m'a dit qu'elle ne voit non plus les expressions des enfants quand ils parlent. Ils sont en train d'apprendre en première primaire,
oui.
Et donc, pour elle aussi, c'est difficile. Elle dit, ce sont tous calmes, OK, ils respectent la règle. Ils ne peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre, donc ils ne peuvent pas enlever les masques parce qu'ils sont tous dans une petite classe. Parce que normalement, quand on est assis, on pourrait l'enlever, mais si on est éloigné.
C'est ce que Miles dit dans le petit son.
Et là, c'est la petite classe, il ne peut pas, donc il doit toujours garder. Et voilà, et donc l'Institut aussi, elle a dit, nous, on l'a fait parce qu'on doit respecter les règles, mais sachez qu'on n'est pas d'accord. Non plus, les instituts sont d'accord.
Mathilde?
Oui, eh bien, oui.
En colère?
Oui, en colère, mais aussi triste. Enfin, je pense que j'ai vraiment été choquée quand j'ai dû déposer mon fils Olaf le premier jour, lundi passé, avec un masque. En fait, ça m'a rempli de tristesse de voir mon enfant qui a 6 ans. Donc là, quand même, on développe le langage au niveau cognitif, émotionnel. C'est là où il se passe plein de choses. Et en fait, il n'y a pas besoin d'experts pour le savoir. Et je trouve que c'est ça qui est terrible. C'est que là, j'entends beaucoup l'argument de « oui, mais on n'a pas le choix. Oui, mais quelles sont les autres alternatives ?» etc. Et comme si aussi tous les arguments se valaient, enfin tout était la même chose, sauf que en fait concernant les discussions par exemple sur le vaccin, je trouve que c'est encore une autre discussion. Là en fait oui, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour savoir qu'a priori c'est pour des enfants de 6 ans, ça va... Enfin, après, si on a envie que tous les enfants deviennent des gros psychopathes complètement tarés, je pense que c'est une bonne mesure, c'est sûr.
Pourquoi pas. Ça peut être un projet
d'une vie. Ça peut être intéressant. Mais oui, en vrai, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais oui, mais comment réagit ton fils, en effet, comme le décrit Miles tout à l'heure. C'est vrai que j'ai la sensation que c'est pas si pire pour eux, mais je trouve que c'est presque le plus triste, en fait, c'est que les enfants s'habituent très vite à tout. Et en fait, moi, c'est ça qui me met en colère. C'est aussi que, oui, je me doute qu'il va vivre avec ça et que... Voilà, et aussi j'entends beaucoup que c'est une mesure qui va sûrement être temporaire, qu'après janvier ce sera fini. Mais bon, d'expérience, on voit très bien que les mesures qui se mettent en place, elles changent pas. En France, c'était le cas, cette mesure en place depuis un an. Moi, voilà, mon petit frère, il a sorti ses deux filles de l'école à ce moment-là dans une réaction immédiate. J'avoue que j'y ai pensé, en fait, mais... Mais je vais pas le faire parce que mon fils, il est content d'aller à l'école et que c'est un... il est dans une super chouette école et tout ça. Mais ça me pose plein de questions sur comment on réagit à ça et surtout quels sont les endroits. Enfin, j'étais contente de venir ici ce matin pour en discuter. Je trouve qu'il n'y a pas d'endroit pour en discuter, pour réagir. Entre parents ouais. aussi, c'est difficile en fait, ça pose plein de questions. Mais...
Et j'ai l'impression aussi qu'une fois de plus, c'est une décision qui divise en fait. Mm-hmm. Qui divise. Très vite, on a vu des tensions en fait entre, oui. Sur certains, parce que maintenant tous les parents dans les écoles ont des groupes WhatsApp où ils échangent sur des conseils mm-hmm. stages, des trucs comme ça. Puis tout d'un coup, il y a des échanges sur le masque. Et puis en fait, très vite, on voit qu'il y a des désaccords sur ça. Mm-hmm. Eduardo qui nous a rejoint, est-ce que tu constates aussi qu'il n'y a pas d'endroit pour discuter de ça y a, c'est compliqué.
Oui, mon souci, c'est aussi ça. C'est, je suis en colère, bien sûr, je suis triste, mais je suis aussi préoccupé parce qu'on entend parler beaucoup de clivages, de discours clivants. Et c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'on risque d'amener ces clivages dans les écoles, parmi les parents. Et moi, je veux surtout pas ça. Je voudrais surtout pas ça. Je pense que sur les enfants, la question des enfants, il faudrait trouver un minimum, un minima. Et j'explique aussi pourquoi, méthodologiquement. Mmh. Parce que là, il s'agit pas de la... On entend beaucoup parler de égoïsme et altruisme et de responsabilité. Mais normalement, c'est la responsabilité individuelle d'un adulte vis-à-vis d'autres adultes. Là, le cas est beaucoup différent. On parle de la responsabilité de quelqu'un qui ne peut pas l'assumer parce qu'il a un âge où il vit autrement que dans cette dimension que nous, on s'impose. Donc, nous sommes responsables de nos enfants qui sont pointés du doigt en tant que responsables. Et donc, c'est là que je commence un peu à m'inquiéter. Mmh. Et j'ai aussi remarqué, nous, on vit dans le monde des parents, on est habitué à être en contact avec des enfants, mais il y a comme un arrière-discours qui, à mon avis, met le monde tête en bas et pied à l'air, qui j'ai l'impression qu'on entend dire, oui, mais les enfants, c'est un lieu de contamination, c'est un milieu de contamination. Et moi, j'aurais envie de dire, ben oui, bien sûr, c'était la fonction que les enfants ont toujours eue dans l'espèce humaine de travailler l'immunité de l'espèce. Et on le savait très bien, ça, même avant la pandémie.
Ouais.
Et donc, je ne veux pas aller plus loin, parce que ce n'est pas ici le lieu de porter des discours scientifiques. Moi, je n'ai pas les compétences. Ce n'est pas ici le lieu de mettre en discussion, ici, l'ensemble des règles sous la pandémie, mais on est, j'ai rebondi, je répète, c'est la question, c'est de se mettre d'accord sur ce minimum que c'est le bien-être de nos enfants. Et
ouais. Mais en plus, est-ce que c'est, enfin, moi j'ai croisé pas mal de parents qui questionnent l'efficacité, pas l'efficacité du masque, mais l'efficacité d'un masque quand on a 6 ans. C'est-à-dire que c'est quand même encore un truc où tu le touches, tu l'échanges avec un pote, enfin, je sais pas.
On voit bien dans la description que fait Miles de l'absurdité ouais. de la chose, de l'arrangement qui est le cas aussi avec les adultes. Hein. Enfin, quand on est dans un train et que le conducteur dit vous pouvez manger mais pas trop, enfin genre pas les frites mais un sandwich chava. Enfin, à un moment, bon. Enfin, après, oui, je ne veux pas commencer le débat sur le masque en général, parce que j'ai l'impression que c'est en effet la question des enfants.
Oui, bien sûr.
Et de qu'est-ce qu'on impose et de la contrainte, enfin, ce que tu décris très bien, mais qui existe par ailleurs dans la société sur plein d'autres sujets. Hein. Enfin, on peut parler de la discussion des vêtements, du port du voile. Enfin, il y a d'autres endroits où on tente d'imposer des codes.
Ouais.
Mais là, on est dans une autre type de contrainte. Mais...
Ala Choukran, c'est vrai, on vous a pas encore entendu sur le, parce que oui, alors Eduardo, tu vas pouvoir nous dire aussi, mais
oui après.
Donc Choukran, est-ce que tu as des enfants? Toi, tu as des enfants, mais plus grands, je crois,
oui.
qui portent le masque depuis un bon moment.
J'ai des enfants majeurs. Que...
Ouais. Ah oui, donc, c'est ça, ils sont majeurs. Ouais.
J'en ai deux majeurs, ils font leur vie, donc
ouais,
ils portent, ils portent pas, c'est leur problème. mais j'ai par contre une fille mineure, elle suit les règles.
Ouais.
Ouais.
Et toi, ça t'a. Est-ce que ça t'a fait quelque chose en tant que maman? Est-ce que tu as eu des réactions?
Mais elle a pas 6 ans, donc ouais. c'est. Elle est, on n'est pas dans. Moi, personnellement, je suis pas dans le thème. Par contre, j'ai un neveu qui a 8 ans. Mm. Lui, il porte le masque. Ça le dérange pas. Ma fille, pour la protéger, donc j'ai fait le nécessaire. Mm. Voilà.
Et toi, là?
Bon, la vérité, je suis contre, même si j'ai une fille de 2 ans et demi en maternelle, mais je suis contre vu que je vois les enfants à l'école des devoirs ici.
Ouais.
Et j'arrive pas à avoir une relation comme avant. Parce que déjà, je vois pas l'expression comme je disais. Je vois pas les expressions de l'enfant, est-ce qu'il est en colère, il est fâché, est-ce qu'il est content ou triste. Donc, je ne sais pas comment. Surtout, moi, je suis stagiaire comme stagiaire assistant social. J'ai fait un suivi avec l'enfant. Donc, j'arrive pas à voir les expressions. Parce qu'avec les enfants, c'est pas assez de. Comment dire? On sait pas. Ce qu'ils disent avec leurs mots, ils ne savent pas s'exprimer avec les mots.
Ouais.
Donc on voit leur expression et tout. Donc j'arrive pas à faire des suivis avec les enfants après avoir porté les masques.
Ouais.
Donc j'arrive plus à faire mon travail, on va dire.
C'est vrai que pour eux non plus, ça ne doit pas être simple de voir tes expressions à toi, puisque oui, toi aussi tu es masqué. Il y a un truc où en fait on se coupe complètement l'un de l'autre. Eduardo, je suis sûr que tu as des infos encore là avec ton téléphone.
Oui, on parlait d'efficacité. En fait, je reviens à la question du clipage. Quand on s'est posé la question, moi, ma première réaction était un peu forte. Et alors, j'en ai parlé avec d'autres parents. Et on s'est tout de suite posé la question, comment est-ce qu'on pourrait faire? Alors, la première chose qu'on s'est dit, c'est manifester notre soutien à l'école. Parce qu'on comprend bien qu'eux, ils ont une forte injonction.
Ils n'ont pas le choix.
Et ils n'ont pas le choix, mais de vraiment leur mettre la main sous l'épaule en leur disant, écoutez, on est avec vous, on sait que vous allez appliquer ça de façon intelligente, parce qu'on sait quand même que c'est une démarche. Moi, je comprends bien qu'il faut apprendre aux enfants de respecter les règles, mais c'est quand même un fardeau assez lourd. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Plutôt que d'aller sur des avis personnels, on a essayé de donner une information. Donc, on a distribué un flyer avec les recommandations de l'OMS concernant le port du masque pour toutes les tranches d'âge, notamment aussi pour la tranche 6-12 ans. Et on parlait d'efficacité. L'OMS, donc c'est pas le médecin du coin, avec tout le respect pour le médecin du coin, qui dit, alors, premier point, risque potentiellement accru d'autocontamination dû au fait de manipuler un masque facial, puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées. Point 1. Point 2. Autocontamination possible si un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes. Et je m'arrête ici parce qu'on continue sur toute une liste qui fait un peu mal à la tête, notamment mal de tête, lésions cutanées, difficulté de communiquer, sensation d'inconfort.
Ah oui, c'est ça. Non seulement c'est pas très efficace, mais en plus ça provoque des choses. Enfin, c'est dangereux pour.
Oui. Et donc.
Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore, en plus.
En plus,
donc, je mets un peu les doigts sur la règle, oui, d'accord, mais c'est quand même une démarche, je ne veux pas utiliser les mots autoritaires, mais est-ce comment l'enseignant, l'instituteur va se relationner à un enfant qui enlève son masque? Est-ce que c'est. Comment ça va se passer? Comment ça se passe cette invitation à les mettre? Et comment le reçoit l'enfant?
Ouais.
Parce que ça ne vient pas du monde de l'école où il faut être à l'heure, c'est les petites règles de l'école, mais c'est quelque chose qui vient du monde à l'extérieur. Et les enfants ont entendu tout ça, ils le savent. Et je comprends bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui l'acceptent bien. Hein, et ils ont leur avis. Mes enfants, 6 ans, 8 ans, ils ont leur avis là-dessus. Et moi, je n'essaie pas de manipuler leur avis. Il ne faut pas mettre les enfants en porte-à-faux, hein, tout ça.
Non, non, bien sûr, bien sûr. Donc, première étape. Oui, Erika, vas-y.
Je voulais dire, en fait, comme parents, on ne doit pas trop mettre notre angoisse sur eux.
C'est très important
qu'ils puissent vivre. Moi, les premiers jours, les jours avant, les dimanches, je disais, ah, demain, tu vas avoir le masque. Je me sentais comme Roberto Benigni dans La vie est belle, qui essayait de
dire,
c'est un jeu. Oui, c'est ça. C'est un jeu. Je disais, oui, tu l'aimais, mais tu vas voir, tu vas sentir tout chaud, c'est bien, tu me sens bien en chaleur. Maintenant, fait froid. Un peu comme ça pour dédramatiser. Mais par contre, ma fille n'a pas voulu. J'ai demandé comment c'est passé. Elle m'a dit, je ne t'ai dit rien. Et encore maintenant, je ne sais rien.
Ouais.
Donc, quand même, elle se sent, je vois, mal à l'aise parce qu'elle ne veut pas me dire. Mais je n'ai pas trop manifesté mon angoisse, ma colère envers elle. Voilà. Donc, pas envers elle, avec elle.
Avec elle, ouais.
Et donc, oui. Et une autre chose que je voulais dire, parce qu'après, je dois partir, que ça m'a fait penser, ce porte des masques, j'ai dit, ah oui, ils sont en train de faire comme ils sont faits avec les adultes. D'abord, le masque n'est pas important. Après, oui, c'est important, les masques. Il faut porter les masques. Après, il faut se vacciner.
Ouais.
Après, il faut avoir un CST pour aller ailleurs, en Italie, aussi au travail. On doit avoir un CST pour aller au travail. Donc, partout. Donc, je dis, est-ce que ça, et ça va créer des discriminations aussi.
Et pour monter, est-ce que ça, pour ça monter va être... sur les transports publics.
Et pour monter sur les transports publics.
En Italie, maintenant, ça... Et donc, est-ce que ça va être comme ça aussi pour les enfants, qui après, ils doivent se vacciner. Donc, on justifie, on passe d'abord par les masques, après, on justifie... la vaccination, parce que c'est important qu'eux aussi protègent toute la communauté. Et après, elle doit aussi avoir un CST pour entrer à l'école, ou sinon, elle ne peut pas aller à l'école s'ils ne sont pas vaccinés. Donc, de nouveau, donc, tout ça, ça m'a fait penser à ce scénario-là des adultes qui vont maintenant aller. J'espère que non. J'espère que c'est juste mes pensées, mais voilà. Il faut quand même agir comme parent, faire quelque chose.
Ben là, justement, on est sur des... il y a des pétitions, c'est ça. Je crois qu'il y en a plusieurs qui circulent en ligne sur change.org.
Oui,
Ouais, sous les yeux, il y a une lettre ouverte contre le port du masque des 6 ans qu'on peut trouver sur Internet.
Sur
et justement,
Internet,
pour rejoindre ce que disait Eduardo, qu'on peut signer entre parents, le partager avec l'école, justement, pour plus appuyer un discours de parents qui partagent, qui se soutiennent là-dedans. Plutôt que d'avoir un discours contre l'école, en effet, parce que c'est ça, en effet, c'est ça qui est difficile, c'est que ça oppose les mondes, alors que c'est pas ça le... Pour les écoles, c'est compliqué de gérer tout ça.
D'autant plus qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire oui, ok, quand il s'agit du masque de vos enfants, vous gueulez, mais quand il s'agit de l'état de l'enseignement, vous dites rien.
Voilà.
Donc c'est vrai qu'il faut aussi, faut aussi rester... on doit soutenir, comme tu dis, Eduardo, l'enseignement et l'aider comme on peut, mais... par exemple, se cotiser pour acheter des trucs pour contrôler l'air, parce qu'il n'y en a aucun, il n'y en a pas dans les classes en fait, ça. Tu vois, le
CO2.
Ouais, le truc pour la qualité de l'air. Là, moi, j'ai vu ça dans des lieux culturels.
Oui.
Ils en ont. Pourquoi est-ce qu'on n'en met pas dans des classes, tu vois? Bon, il y a peut-être un manque de moyens, mais est-ce qu'on peut pas se cotiser entre parents? Enfin, je ne sais pas.
Ils ont fait.
Les moyens sont là, mais ils sont mal répartis.
Ah, voilà. On en parlait il y a 2 semaines dans une émission sur l'enseignement, l'état des bâtiments d'ailleurs.
Voilà.
Ouais. Eduardo, encore une info?
Non, je disais, ils ont fait une grande fanfare sur ces mesureurs de CO2.
Ouais.
Et en fait, à l'école de mon fils, ils expliquaient qu'ils en ont un.
Ils en ont un, oui.
Mais il est dans l'espace de prof, et où ils ne peuvent pas rentrer par règlement. Donc le seul appareil est installé dans la seule salle où ils ne peuvent pas rentrer.
Ah, d'accord.
Et donc, on est un peu dans le surréalisme, alors qu'on entendait dire le ministre, ah, finalement, maintenant, on a ces appareils qui mesurent. En plus, moi, je me demande pourquoi pas alors prendre des mesures un peu plus radicales, mais là, je pars un peu en vrille, hein, un peu pour la tangent. Pourquoi on ne ferait pas plutôt l'école à l'extérieur? Donc, on pourrait se dire, pendant 2 semaines, l'école, ça devient l'école de la nature. Donc, on fait une programmation, mais là, ça touche un peu à la capacité de l'école de s'adapter, etc.
Mais ça va demander l'implication des parents, mais les parents, ils sont obligés de bosser. On est dans un truc où c'est... Évidemment, on y a tous pensé en tant que parents, se dire... Mais quand est-ce qu'on change? Quand est-ce qu'on s'arrête, les parents, tu vois?
Parce que là, c'était aussi la question de pourquoi pas fermer les écoles 2 semaines.
Ouais. Et là aussi, c'est discriminant et il y a des parents qui ne peuvent pas se permettre.
Et puis ça met face à des inégalités sur les parents qui peuvent s'arrêter ou pas, etc. C'est sûr, mais...
En tout cas, les pistes de réflexion, elles existent, mais il y a peu d'endroits où on peut débattre, en discuter, ça c'est sûr. Je vais devoir vous laisser y aller parce que vous avez tous des rendez-vous, je crois, aujourd'hui, Erika. En tout cas, Mathilde.
Oui, moi aussi, je dois partir.
Alors voilà.
Oui.
Merci d'être venue, Erika.
Merci.
Je vais donner un cours de chant en ligne pour les élèves avec qui je fais des ateliers de chant. L'addictivité la plus dangereuse de nos jours.
Là aussi, on doit trouver des systèmes D et donner des cours en ligne, des ateliers en ligne.
Oui, pour la danse, j'ai refusé ça.
T'as refusé, Erika? Toi, les ateliers de danse, c'est en présentiel.
C'est en présentiel, voilà. Sinon, on ne les fait pas.
À l'extérieur.
Sinon, ils s'habituent avec ça et ça devient normal. Comme les spectacles, quand les spectacles allaient dans les écoles, que tout était fermé, mais pouvaient aller dans les écoles, les spectacles. Et donc, finalement, aussi, la CTJ, que c'est la chambre du théâtre pour l'enfance et la jeunesse, a dit oui, ok, c'est bien, mais que ça ne devienne pas une normalité que les théâtres vont dans les écoles. Ce sont les écoles qui doivent aller au théâtre, doivent sortir, parce que la sortie, c'est une expérience. Aller dans un lieu culturel, c'est une autre expérience, voir... C'est pas que, ok, on reste ici, et les acteurs, les comédiens, les danseurs viennent ici. Non. Donc, voilà.
Tandis que Mathilde, elle le fait en ligne, quoi.
Ah voilà. Oui, mais ça
fait un autre... C'est compliqué que ça, mais ça prend 10 minutes à expliquer. C'est une vraie question de... En fait, j'ai annulé plein d'ateliers à plein de moments. Mais en fait, déjà, il y a la question d'être payé ou pas, parce qu'en général aussi, si t'annules, t'annules, quoi.
Ouais.
Et puis, en fait, j'essaie aussi de trouver un peu des solutions où je fais faire des choses quand même aux... Là, aux élèves, je leur propose de se connecter, de faire des choses chez eux, là où ils se trouveront. Et pour moi, c'est aussi important. Mais je suis d'accord, il y a un vrai dosage à trouver en tant qu'artiste, de ne pas te transformer en espèce d'animateur, animatrice... social qui vient à domicile pour quand même entretenir le loisir de la société malgré toutes les contraintes. Enfin, grand équilibre à trouver dans cette période.
Oui.
On voulait aussi avoir le témoignage d'un enseignant ou d'une enseignante qu'on n'a pas pu avoir ou d'une professionnelle de l'éducation. Voilà, personne n'était disponible pour cette émission, mais on m'a renvoyé vers une vidéo d'une chercheuse. En fait, c'est une chercheuse en psychologie cognitive qui nous explique, on va entendre un tout petit extrait. Moi, j'aime pas faire ça d'habitude, passer des vidéos à la radio, mais bon, c'est comme ça, c'est un tout petit extrait. Elle s'appelle Agnès Picard-Kipfler, elle est chercheuse en psychologie cognitive. Elle a mené une étude sur l'apprentissage de la lecture avec le masque, principalement quand l'enseignant porte un masque, mais bon, voilà, elle nous raconte un petit peu les effets du port du masque sur l'apprentissage de la lecture. Voilà, on l'écoute pendant que Mathilde et Erika, ben, vous nous quittez. Merci d'être venus.
Merci, au revoir.
Merci, oui.
Il faut comprendre le lien qui existe entre la discrimination des sons, le fait de bien différencier les sons du langage, et la lecture. Donc, quel est le lien entre les deux? Eh bien, pour apprendre à lire, dans une langue comme le français au principe alphabétique, il faut être capable d'associer deux types d'unités. D'un côté, c'est les sons, et de l'autre côté, c'est les lettres. Ça veut dire pour l'enfant connaître petit à petit un certain nombre de lettres et toutes les lettres, et connaître, différencier les sons, et puis les apparier, les mettre ensemble. Et donc les sons ont une importance cruciale, d'autant plus que les lettres ne se prononcent pas comme elles s'écrivent, sauf pour quelques voyelles, comme le A qui se prononce A, le I qui se prononce I, sauf le Y, mais il y a certaines voyelles comme on, ça s'écrit O-N, donc le son n'est pas pareil. Et pour les consonnes, le son des consonnes n'est pas pareil que leur nom. Par exemple, la lettre P, elle se prononce P. La lettre F se prononce F. Donc il faut que l'enfant, dans un premier temps, quand il apprend à lire et quand il est en maternelle, au départ, il apprend à différencier visuellement les lettres les unes des autres, mais aussi différencier auditivement les sons les uns des autres. Mais pour cela, c'est très difficile parce qu'il y a certains sons qui se ressemblent. Et donc la lecture labiale, elle joue à ce moment-là un rôle important parce qu'elle va permettre de différencier des sons assez proches, comme par exemple ça, ra, c'est pas la même chose sur les lèvres, ou cha, ra, même si c'est assez proche auditivement, ben, c'est pas proche sur les lèvres. Et donc au final, l'apprentissage de la discrimination des sons, il s'appuie à la fois sur des informations visuelles, des informations du visage, du positionnement des organes de la phonation, la bouche, la langue, le voile du palais, les dents, etc. et sur des informations auditives. En 2013, nous avions fait une étude dont le but était de pouvoir prédire dès la grande section de maternelle les enfants qui seraient à risque de présenter des difficultés en lecture, et puis les enfants qui auraient un bon niveau en lecture. Donc pour cela, nous avions suivi deux groupes d'enfants. Un groupe d'enfants avec une bonne discrimination des sons et un groupe d'enfants avec une mauvaise discrimination des sons. Et on s'était aperçu au bout de 3 années qu'effectivement, le fait de bien percevoir les sons avait une incidence. Parce qu'au final, les enfants qui avaient de mauvaises discriminations des sons, donc qui confondaient les sons, avaient un bien moins bon niveau de lecture. Et donc, on s'est dit, tiens, est-ce que le fait de voir ou de ne plus voir finalement la bouche de l'enseignant, est-ce que ça va avoir une incidence chez des enfants, un, qui perçoivent bien les sons, deux, qui les perçoivent plus mal. Les résultats actuels nous ont beaucoup surpris. Nous ne pensions pas qu'il y aurait une telle différence de l'incidence d'une situation proche de celle du port du masque chez les enfants. à court terme, les enfants n'ont pas l'égalité des chances, selon qu'ils entendent bien les sons, selon qu'ils les discriminent bien ou pas, ils ne sont pas dans une situation où ils peuvent de la même façon apprendre à lire. Donc, le masque est inégalitaire.
Branche ta radio, c'est Radio Maritime, sous Radio Panique.
Si on s'en débarrassait de ces enfants, finalement. Parce qu'ils nous causent que des problèmes, non? Je veux dire, c'est vrai quoi, faut les nourrir. Après, il faut s'inquiéter pour eux. Après, quand le gouvernement s'inquiète pour eux, on n'est pas d'accord à la manière dont le gouvernement s'inquiète pour eux. Donc, on est, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'arrêterait pas simplement d'en faire des enfants, Eduardo?
Ils sont faits, désormais ils sont faits. Hein.
Oui, bon, ça c'est une autre question. Ouais. Mais, si c'est déjà fait, c'est déjà fait, mais il y a sûrement moyen de... Voilà.
Écoute, c'est un acte d'amour, hein, et c'est aussi un
pas toujours, c'est devenu une pression sociale, hein, plus qu'un acte d'amour. Hein, il faut en avoir des enfants aussi. Hein.
Oui, oui, oui. Mais c'est un acte d'amour de tenir bon. Hein. Non, oui.
Mais alors l'idée quand même, parce que pendant la musique et puis pendant le reportage, c'est qu'on discutait un petit peu, l'idée n'est pas de... Pour les parents qui décident de signer ces pétitions, je pense que la plupart des parents sont conscients que c'est un problème qui va au-delà du port du masque à l'école, c'est un problème qui est énorme et qui est... On n'en est pas juste là à se défendre notre petit bout de gras. Hein, parce que il y avait une petite discussion sur oui, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a d'autres problèmes, qu'il y a des pays qui n'ont pas accès au vaccin, que l'enseignement part en vrille, qu'il n'y a pas de toilettes dans certains. Enfin, qu'il y a des toilettes. Donc oui, on est conscient qu'il y a plein de problèmes. Qu'il y a des problèmes liés au corona, qu'il y a des problèmes liés au système, la manière dont l'enseignement est financé aujourd'hui. On en parlait il y a deux semaines dans Radio Maritime. Donc voilà, mais c'est vrai que. J'ai l'impression, et je ne sais pas si Eduardo tu confirmes, c'est qu'on subit comme ça, on a l'impression de subir depuis 2 ans maintenant, à chaque fois, de nouvelles injustices ou des nouvelles décisions qu'on subit, contre lesquelles on ne peut absolument rien faire. Et c'est vrai que ça pose question quand ça touche à nos enfants. Quoi.
Ça pose question, et en fait c'est un peu symptomatique, je trouve, qu'en ces moments, toute petite question devient une grande question. Ouais. Et tout de suite, très vite, on arrive à des questions systémiques. Je trouve que ça, d'un côté, c'est même assez intéressant, parce que là, en ce moment, il y a des réactions un peu hystériques, mais il faut rester avec les pieds à terre, et je pense que c'est une bonne occasion aussi de questionner de façon un peu plus radicale les systèmes, que ce soit les systèmes scolaires, ou que ce soit les systèmes de la représentance politique, et aussi les systèmes de la santé. Moi, j'ai, tout à l'heure, pendant la pause, je pointais du doigt un peu et la question du rôle de l'école et de la fonction et de la valeur de l'école dans notre société. Et je m'étais dit tout de suite ça au début de la pandémie et j'avais eu ce sentiment et ce message, à mon avis, il était arrivé très clair et net. Oui, les écoles, il faut éviter de les fermer, et il l'avait fait pour autant, parce que autrement, on grippe les systèmes économiques, financiers. Et donc, est-ce qu'on conçoit l'école principalement ou exclusivement comme une garderie
Pendant que les parents travaillent.
Et alors, ça remet un peu en question tout, parce que c'est vrai qu'avec les parents, un peu par absurde, on est arrivé un peu à se dire, mais écoute, qu'est-ce qui se passerait si à un moment donné, on arrive à des mesures pour lesquelles je ne suis pas d'accord et je veux quand même dire, ok, je fais une démarche déconstructive, pas destructive. Et j'ai dit, OK, on garde les enfants à la maison. Alors, on a fait toute une hypothèse, un jeu. Ouais. Un jeu, on se disait, OK, il y a 10 parents, on commence à s'organiser, on regarde un peu les programmes scolaires. Est-ce qu'on pourrait... Il y a des discussions qui sont assez avancées à ce niveau-là.
Pour de l'école à domicile, quoi.
L'école à domicile, exactement. Ouais. Imagine-toi 5 parents qui s'organisent sur 2 semaines. Si un papa et une maman donnent un jour sur les 2 semaines, il y aurait moyen quand même d'organiser. Il faut des compétences, ça c'est sûr. Mais,
en tout cas, c'est moins effrayant à 6 ans que quand ton enfant a 14-15 ans. Enfin, je ne sais pas. Je crois que j'ai l'impression que c'est la matière à enseigner.
Oui.
Moi, je sais que des exercices de maths de 6e primaire, non. Je ne sais pas les faire, moi. Donc,
Jusqu'à 12 ans, on pourrait, je ne dis pas qu'on pourrait s'en sortir, on ne peut pas se mettre à la place des enseignants, mais quand même, il y a des interrogations j'aimerais bien avoir Patrick ici. Parce que
il ne voulait pas parler aujourd'hui, il a dit non, je ne viens pas.
Je pense qu'il aurait son mot à dire et peut-être qu'il ne serait pas trop d'accord sur ça, parce qu'il a une vision assez
forte du rôle de l'école.
Et... Bah, mais attends, tu sais, continue à parler, moi je vais chercher Patrick. Attends, je...
Bah oui,
continue allons-y. À parler, Eduardo.
Allons-y les chercher.
Continue à parler parce que c'est en direct. Hein.
là, sans Thibaut, je n'arrive plus à parler.
Faut mais... meubler.
Non, mais...
Mais pouvez-vous vous présenter? Parce que c'est la première fois que je vous vois. Enfin,
ah oui,
vous êtes qui? Vous faites quoi?
Je m'excuse, hein, je tombe un peu comme ici à la radio, comme une étoile filante.
Voilà, ça y est, il va arriver.
Il arrive.
Pour la sortie de son bureau, pour avoir son avis. Ouais, c'est
quand même toujours les mêmes qui bossent ici, donc à un moment donné, il faut qu'ils viennent aussi.
Je voilà. travaille ici.
Monsieur Patrick.
Ah, vous travaillez ici.
Au centre communautaire voilà. maritime, donc mon bureau est avec Monsieur Patrick.
Alors, Eduardo a mis comme piste de réflexion, de, bon, si ça continue, le masque, à un moment donné, il y a des solutions qui existent et il y a des réflexions. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui sont en train de réfléchir à sortir leurs enfants de l'école. Alors, on aurait aimé avoir votre avis là-dessus, monsieur Patrick. Vous qui êtes un fervent défenseur de ce lieu froid, mal chauffé, sans papier toilette, qu'est l'école?
D'accord.
Bon ben alors voilà.
Bonjour déjà monsieur Patrick.
Bonjour.
Les auditeurs sont contents de vous retrouver parce que vous manquiez un petit peu.
Bon, alors je n'ai absolument pas d'avis construit sur toutes les questions que vous m'avez posées. Ce que moi je peux dire, alors vraiment il faut le prendre comme étant un modeste avis qui vient se rajouter à tous les autres modestes avis qui ont été dits jusqu'à présent, qui ont été donnés, c'est un, depuis quelques années maintenant, et on voyait ça à la coordination des écoles des devoirs, il y avait de plus en plus de familles qui faisaient de l'enseignement à domicile et c'était essentiellement pour les filles.
Oui.
Donc ça a été une tendance qui est arrivée et qui a continué à grimper pendant quelques temps. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je ne vois pas pourquoi cela aurait diminué. Alors c'est vrai que le lieu école n'est pas obligatoire, c'est l'enseignement qui l'est. Donc si on peut faire de l'enseignement sur un bateau ou un voilier quand les parents vont
dans une caravane,
voilà, de tel endroit à un tel autre, mais surtout au soleil,
ah ouais. Voilà,
pourquoi ne pas le faire? Alors c'est vrai que ça demande un peu d'organisation parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un à la maison qui est susceptible d'accompagner ses enfants. Souvent, les parents travaillent tous les deux. Si ce n'est pas le cas, encore faut-il pouvoir accompagner ses enfants correctement. Le primaire, why not? Le secondaire, c'est quand même déjà une autre aventure. Il y a des obligations de travail à rendre. Ouais. Et le niveau attendu du travail à domicile est quand même largement plus important que le niveau attendu dans une classe. C'est-à-dire que les critères d'évaluation seront plus élevés si on fait genre le jury central ou du travail à distance par rapport à un travail en classe où les profs peuvent estimer l'investissement des enfants.
Ouais.
Les profs peuvent dire « bon, c'est vrai que je vois qu'il a une dyscalculie, mais par ailleurs, pour tout le reste, il est bon et donc je lui donne un coup de main, on met des aménagements en place. Au moment du conseil de classe, on peut encore négocier le bulletin, le passage dans l'année supérieure, etc. » Ce qui, en enseignement à distance, ouais. c'est froid, neutre.
C'est-à-dire que si c'est toi qui dis que ton enfant, ok, voilà. il a une dyscalculie, mais pour le reste, il est super.
Voilà,
ça a moins d'impact qu'un professeur.
Voilà, humain. Donc ça c'est... Bon, alors après, maintenant, il y a, j'imagine, cette question de l'enseignement à domicile à cause du Covid. Bon, ok, c'est pas facile pour l'instant. On parle encore d'une cinquième et d'une sixième vague avant que le virus ne disparaisse. Est-ce que, finalement, il y aura un après qui reviendra qui redeviendra comme un avant? J'en doute. Moi, je vois les Asiatiques depuis des années qui se trimballent en rue avec leurs masques pour se protéger de la pollution. Je me dis que il faut presque peut-être faire le changement dans sa tête et faire la modification dans sa tête parce que je ne suis pas sûr que ça va revenir comme avant, que les zoonoses vont se développer tant qu'on n'aura pas compris que d'aller détruire le règne animal, enfin l'habitat du règne animal.
Appelons ça le vivant.
C'est ça. tant qu'on n'aura pas décidé de protéger un petit peu les milieux de vie des animaux, on aura de plus en plus de zoonoses. Et donc voilà, moi je pense que et puis surtout la question c'est maintenant, nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas tout puissants. Voilà. Donc on se rend compte que bah, la grippe, on y survit, la polio, on s'est vacciné. Et puis il y a un autre truc qui nous arrive, il y a 27 000 morts en Belgique en plus que sur une année normale, enfin ou que sur deux années, puisque on est carrément sur deux années là. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'on doit accepter qu'on n'est pas tout puissant, qu'on meurt, et qu'il y a des choses plus fortes que nous qui sont de la taille d'un micron, et qui nous font mourir sans qu'on ait vraiment décidé de s'arrêter de vivre demain. Voilà. Et donc ça, c'est peut-être le changement le plus drastique dans la tête de l'humain, c'est de commencer à imaginer qu'il est mortel et de ne pas croire que parce qu'il a la Mercedes, le compte en banque, la jolie blonde, la montre et la villa à la plage, qu'il va être tout puissant et immortel.
Vous parlez de vous là, monsieur Patrick.
Oui, évidemment. Moi, j'ai juste la montre. Et encore, ce n'est pas la bonne marque.
Et par contre, la Mercedes, c'est la blonde qui s'appelle Mercedes, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est une espagnole.
Choukran, on n'est pas tout puissant, c'est ça?
Oui, exactement, oui.
Ça je te voyais boire les paroles de Monsieur Patrick. Non pas parce qu'il postionne, mais parce que c'est intéressant ce qu'il dit.
Ben oui, on n'est pas puissant, évidemment. C'est un truc invisible, microscopique, je ne sais pas à quelle échelle. Et voilà, la Terre entière est à l'arrêt. Je veux dire, tout le monde fait attention. Il faut porter un masque, Bon, ceux qui disent « Ah non, le corona, ça n'existe pas, les complotistes », désolé, pourquoi tous les jours on en parle alors?
Ouais.
Tous les jours, actuellement, encore en Belgique, il y a 50 décès par jour.
Ouais.
Donc voilà.
Très bien.
Est-ce que j'ai bien dit ce que vous m'aviez dit
En tout cas, moi je tiens à dire que votre organe nous avait manqué.
Oui, surtout là, avec ma voix d'outre-tombe.
La soirée a été longue hier, monsieur Patrick.
Oui, longue dans mon lit parce que je suis un petit peu malade. Mais n'oubliez pas de me glisser l'enveloppe sous la porte. Hein, parce
bien sûr.
M'avez dit, il faut venir, tu dis ça, parce que moi je ne peux pas le dire. Je suis venu, je l'ai dit, donc maintenant il faut assumer jusqu'au bout.
Vous recevrez votre salaire, monsieur Patrick.
Saint-Nicolas, en chocolat.
Voilà.
Ils sont bons, voilà, ça c'est ce que Saint-Nicolas m'a apporté, c'est correct, Choukran?
Oui, c'est excellent.
C'est bien?
Oui, très bien.
On est un peu sur... alors, Saint-Nicolas cette année, voilà, il a été se fournir chez Léonidas, apparemment.
Ah bon?
Tranquillou, bilou, Saint-Nicolas. On sent qu'il y a eu du budget cette année. Sacré Saint-Nicolas. En tout cas, ça change du Saint-Nicolas de l'école de devoir du CCM, qui est chaque année la même. Voilà, je tenais à le dire.
C'est un gros caillou qu'il lance dans mon jardin. Il me le lance même à la figure. Hein.
Alors, on a parlé de mortalité, de Covid, de tout ça. Moi, on va faire parler encore des enfants pour terminer cette émission. Vous savez que nous sommes partenaires d'un projet qui s'appelle Parlons Jeunes, qui est un projet de diffusion de la parole des jeunes, en partenariat avec le délégué général aux droits de l'enfant, comme à l'Indie SBL et d'autres encore associations. Il y a une nouvelle session de vidéos et de témoignages audio qui sont sortis là dernièrement. On avait décidé de tendre des micros aux jeunes en juin, justement, à la sortie de toutes ces vagues. C'était un peu le moment de faire le bilan pour eux. Et donc, les enfants pouvaient parler de ce qu'ils voulaient. Et là, je vais vous faire écouter le témoignage de Lamia. Tout ça est à retrouver sur parlonsjeunes.be.
Vous écoutez Parlons Jeunes. Je m'appelle Lamia, j'ai 11 ans et demi, et ce qui me présente, c'est je suis courageuse, j'ai de l'audace et j'aime réussir dans la vie. Je suis toujours courageuse, j'aime bien prendre des risques, ça veut dire pas prendre des risques qui mettent ma vie en jeu, mais prendre des risques qui m'aident à aller plus loin, mais pas toujours. Parce qu'il ne faut pas en prendre toujours, il ne faut pas en abuser aussi. Ce qui me donne de la force dans la vie, c'est mes parents. Ils m'aident toujours à aller plus loin. Surtout mon père, il croit toujours en moi. Il me dit d'avancer et de ne pas écouter les autres et pas écouter ce qu'ils disent sur toi. Quand j'étais en maternelle, vers la troisième maternelle, je suis tombée malade. J'ai eu des problèmes respiratoires. je suis arrivée à l'hôpital. Ma maman, elle était très triste. Du coup, elle a commencé à pleurer devant moi. J'étais très émue. Et moi aussi, je voulais pleurer. J'arrive dans la salle. Deux jours après, le docteur vient chez ma maman. Il lui dit que si je ne me réveille pas la nuit, ben, c'est possible que je suis morte, en fait, parce que j'avais de très gros problèmes respiratoires et que j'arrivais pas à respirer. Et toujours vers la nuit, on me donnait des médicaments ou on me donnait un truc pour que j'arrive à respirer. C'était invivable pour moi, je voulais même plus vivre. À un moment, je voulais même plus être sur Terre. Et à un moment, je sais pas par quel miracle, ben, je me suis relevée. Et le docteur, il a annoncé à mes parents que je pourrais sortir de l'hôpital. Et j'ai aucun problème maintenant. J'ai aucun problème de santé. Et tout ça grâce aux médecins que je remercie beaucoup, qui ont été là pour moi. Une association aussi qui était venue avec des clowns pour nous rendre heureux à l'hôpital. Et ça, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est ça en fait. C'est que les gens restent avec les personnes malades, les enfants malades, ils ne les oublient pas. Et je remercie beaucoup, beaucoup ma pédiatre. C'est pour ça, c'est ce qui me donne envie en fait un peu de devenir pédiatre. J'aime beaucoup me prendre en photo, des paysages. Tout ce que je trouve beau, je le prends en photo. Et c'est ça que j'aime. Ma passion aussi, ça reste l'école. J'aime bien étudier, j'aime bien lire aussi. Et faire du patin à roulettes. Parce que on dirait que je vole. Et c'est ça que j'aime en faisant du patin à roulettes. J'aimerais dire une chose à beaucoup de personnes qui ont des différences, qui ont des maladies ou qui croient qu'ils vont peut-être plus être dans ce monde. Faut toujours garder espoir parce que je suis aussi passée par là et je croyais aussi que j'allais plus voir mes proches, etc. Et faut jamais croire à ça. Faut toujours croire en ses rêves et croire à soi-même et avancer tout seul. Faut pas prendre conscience des gens qui te disent que tu es moche ou tu es autre chose. Faut toujours être toi-même et avancer tout seul. On dit qu'il faut avoir confiance avec les gens qu'on aime, mais le meilleur moyen, c'est d'avancer tout seul. Faut avoir de la force et du courage, oui. Mais on a tous un peu de force et de courage en nous, il faut l'utiliser. J'aimerais utiliser cette force et ce courage pour aider des personnes. J'aimerais aussi devenir pédiatre pour aider des personnes, les enfants qui sont malades. Ça me fait très, très. Je suis très, très triste de voir ça, surtout que moi aussi je suis passée par là et que j'aimerais les aider.
Voilà, ça calme, hein, Monsieur Patrick.
Moi, ça m'inquiète.
Pourquoi ?
Je vous dirais ça hors émission. Voilà.
Très bien. Voilà. Kran, je te voyais attentive.
Oui.
Ça t'a plu ? Qu'elle raconte la mienne ?
Les maladies d'enfants, c'est toujours quelque chose de lourd. Donc voilà.
Alla, réaction ?
Ah oui. C'est ce qu'elle a dit, ça m'a plu. C'est une fille courageuse, comme elle disait, c'est tout.
Bon.
Ministre de la Santé, tout de suite. Hein.
Elle ?
Oui, ouais, oui,
la
direct.
La mienne ministre de la Santé.
Mais demain,
peu,
hein.
Un peu d'empathie. Un peu d'empathie. Voilà. Je propose qu'on termine là-dessus. On va écouter un petit morceau de musique pour terminer l'émission, si ça vous va.
France Gall. Ou Alain Souchon.
Alors, Monsieur Patrick, pour avoir droit à choisir la musique, il faut participer à l'émission.
Écoutez, pendant longtemps et chaque fois, je me suis fait boycotter entre Alain Souchon
c'est
et
France. C'est pas vrai, on vous a passé tous vos morceaux.
Allez, Patrick, prends un autre chocolat.
Je suis.
Régale-toi. Ouais.
Allez, une petite sucrerie pour Monsieur Patrick pour qu'il se calme.
La grenouille, elle est pas
non,
mal.
Non, moi j'aime bien les petites boules de Léonidas.
Les boules, elles se comment ?
Ouais, mais attendez, laissez-moi aussi les boules de Léonidas, c'est le meilleur truc, quoi.
C'est fondant.
Faites votre office, cher ami, faites votre office.
Mais il y en a encore une, hein.
Vous êtes vraiment gourmand.
Donc vous c'est la cour de récré.
Exactement.
Radio
c'est,
de,
c'est devenu ça. Radio Maritime, c'est la cour de récré.
En plus, ce que j'aime bien quand tu manges les bulles, c'est que tu sens ce goût de chocolat qui revient en dessous du masque.
Ouais,
tu vois cette haleine de...
C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. Voilà, c'était Radio Maritime. Alors, aujourd'hui, alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on parle du masque. Mais la semaine prochaine, on va parler de la plume, puisqu'on a un collectif d'écrivantes, des femmes qui ont écrit des textes, qui vont venir nous les lire. Voilà, collectif d'écrits. Okay. Les Encres d'Elle, je pense que ça s'appelle.
Et donc, vous faisiez référence à la plume et le masque.
Le masque et la plume, l'émission. Voilà, le masque, la plume, voilà.
Il fallait le dire.
Pas mal, hein?
Et oui.
Allez, à la semaine prochaine. Merci Radio Panique. Ciao, merci Choukran d'être venu.
De rien.
Merci Thibault.
Vous avez
semaine
dit
prochaine.
Deux fois la même chose.
Semaine prochaine.
Peut-être, je vais voir mon agenda.
Alain, merci. Merci Eduardo.
Merci.
Merci Monsieur Patrick.
Mais de rien.
À la semaine prochaine.
Inch'Allah.
Can we get some more subs so he can feel it?
Dumb, dumb, dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, fun, funny. You run from no eye, running no eye, pardon no one, nobody. Chop, chop, chop it right hand, chop it like a pickpocket. You had the mic, now you can't drop it. Dumb, dumb, dummy, once nobody. I'm coming, I'm coming, I'm coming, sit down. Don't know what really, really happens at the end of the road. Happens at the end of the road. I don't know what really, really happens at the end of the road. But my trip is mad. I am finished. I got loads. I think I'm up for the challenge. Just so I got me some mileage. I bought a car and a cottage. I got you standing in my baggage. Got the list in my bucket. Where's the sponge? Drop the pocket. I fit in. And the socket. Close the door, I'ma knock it. I got my ticket, I'ma flee. Sell it overseas. I just blink and get a fee. Watch out, think of me. I don't know what really, really happens at the end of the road. I don't know what really, really happens at the end of the road. I don't know what really, really happens at the end of the road. But my trip is now. Lily, I got ceilings, but I burn in the sun. I never miss one shot. I'm sick as a gun. I got more toe friends. I'm dead as they come. Like, hey, I'm on the way. I left my body in the mattress by the San Francisco Bay. No, there's a cop named Mordecai behind my pirate. The Mercedes when we crash. I hit the ER. This is a thriller. I did it for the PR. I did it for the VR. I didn't know when there's a dynamo back in the back of the fridge. I go back into my triple attack and battery as I'm a sack in the cabin. As you recrack and my doggies run back, I just sell them to back it up, back it up, back it up. I don't know what really, really happens at the end of the road.